Ce soir, ce sera des choses nouvelles et aussi des choses qu'on connaît déjà très bien. Ce sera peut-être difficile quelquefois pour les enfants, mais il y aura aussi sans doute quelque chose pour les enfants, pour les jeunes quelquefois. J'aimerais lire ce soir seulement trois versets dans chapitre 52, parce que vous voyez, c'est une prophétie qui commence dans chapitre 52, verset 13. Donc, Ésaïe 52, verset 13. Voici, mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Jusqu'ici, la lecture de la parole pour ce soir. On pourrait dire que cette prophétie qui est devant nous dans ce chapitre ou ces chapitres pourrait être appelée la plus grande prophétie de la Bible, à plusieurs égards. Mais surtout, je pense, à cause du fait que le centre de cette prophétie est le Seigneur Jésus lui-même et son béni. Qu'est-ce que c'est un prophète? Je vais noter juste quelques points pour les enfants. Ce serait peut-être intéressant. On se demande quelquefois, mais qu'est-ce que ça veut dire un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu et qui commence à parler lorsque le peuple de Dieu s'est dévié, lorsque le peuple de Dieu était devenu désobéissant. On connaît ça, hein? Être désobéissant. Et puis là, lorsque le peuple de Dieu est désobéissant, Dieu leur envoie un prophète. Et qu'est-ce qu'il fait ce prophète? Ça, c'est la grande question. Il révèle ce qui est dans le cœur de Dieu. Il parle des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Pour ramener notre cœur, pour ramener à Dieu le cœur du peuple de Dieu. Et quelle est la méthode? Comment est-ce qu'il fait ça? Dans quelle façon? Ça, c'est la grande question. Il le fait en présentant Christ. Donc, le prophète présente Christ d'une façon ou d'une autre pour toucher le cœur du peuple de Dieu. Vous voulez avoir un verset? Apocalypse 19, verset 10. Dans Apocalypse 19, verset 10, nous lisons à la fin du verset 10, « Car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. » Donc, qu'est-ce que le caractère de la prophétie? La prophétie nous parle de Jésus, nous rend témoignage de Jésus. Pourquoi? Comme j'ai dit, pour toucher nos cœurs, pour ramener le peuple de Dieu à Dieu. Et ce n'est pas un luxe, vous voyez. Dans le contexte de ce chapitre, Ésaïe 52, on voit que le peuple de Dieu est en esclavage, est en captivité sous l'esclavage de Babylone, donc d'un système idolâtre, loin de Dieu. Et dans cette situation-là, même là, Dieu présente la personne de son bien-aimé. C'est souvent dans les prophéties, on pourrait mentionner aussi 2 Pierre 1, où nous lisons que les hommes de Dieu, dirigés par l'Esprit, ou mis en mouvement, pour ainsi dire, par l'Esprit de Dieu, ont parlé. Et dans ce chapitre 1, 2 Pierre 1, on voit la beauté, toute la beauté de Christ. Donc, c'est ça qu'un prophète fait. Il parle au cœur du peuple de Dieu pour le ramener. Il rend témoignage de Christ ou de Jésus, la personne merveilleuse de Jésus. Et ainsi, je pourrais dire, il introduit Christ moralement. Ça, c'est peut-être une expression difficile à comprendre, mais je vais l'expliquer. Lorsqu'on parle de prophétie, souvent on pense des choses à venir qui sont pour le futur, bien éloignées. C'est vrai, mais il y a toujours un élément moral ou des leçons spirituelles dans le message du prophète. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que les prophéties ont toujours un élément moral. Quelquefois, les prophéties parlent du futur, mais c'est souvent, comme j'ai expliqué, pour toucher nos cœurs, pour ramener nos cœurs à Dieu. Ça, c'est le secret, donc, et la mission d'un prophète. Et c'est vraiment le cas ici dans ce chapitre. C'est vraiment un chapitre très spécial qui est devant nous, ou disons une prophétie. Cette prophétie, 15 versets, 5 fois 3. Ce soir, on a seulement les premiers versets, 1 à 3 de cette prophétie. C'est un chapitre qui est vraiment unique aussi dans ce sens-là, que dans l'hébreu, on trouve ici 26 mots à peu près, 26 mots qu'on ne trouve nulle part ailleurs, seulement dans ce chapitre. Déjà par cela, c'est un chapitre très spécial, unique. Mais on peut dire aussi que c'est vraiment le lieu très saint où on entre devant la personne du Seigneur Jésus. C'est aussi le cœur du livre d'Ésaïe. Je vais expliquer ça un peu. On a dans Ésaïe 7 grandes divisions. On sait déjà, la plupart, même les enfants savent ça, Ésaïe, on peut comparer avec toute la Bible. Ésaïe 1 à 40, ce serait l'Ancien Testament. 1 à 39, ce serait l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a 39 livres. Et le Nouveau Testament a 27 livres. Et le restant d'Ésaïe, c'est 27 chapitres. On peut le diviser aussi d'une autre façon. Dans trois divisions, on peut dire 1 à 35. Et puis, une section historique, chapitres 36, 37, 38 et 39. Et puis, la deuxième partie, la troisième partie, si vous voulez, c'est en rapport avec le Messie, en rapport avec le futur. Mais les grandes lignes, la première section, on peut dire la première division de 39 chapitres, a donc quatre sections et 1, 2 et 3 nous parlent d'Israël, nous parlent des principes de prophétie générale. Puis cette partie historique, chapitre 36 jusqu'à 39, est en soi aussi une prophétie. C'est souvent le cas dans la Bible. Vous connaissez Daniel, le livre de Daniel, même les enfants connaissent Daniel 1 à 6. Ce sont des histoires très intéressantes. Mais vous voyez, même ces histoires sont des prophéties en soi. Comme le livre de Jonas aussi, c'est une histoire. Et en même temps, c'est des prophéties. Ce sont des prophéties. Ainsi, Ésaïe 36 à 39, c'est une prophétie à plusieurs égards. Concernant le Seigneur Jésus qui souffre, comme Ézéchias est tombé malade, et puis devrait mourir, ça nous parle aussi des souffrances du Seigneur Jésus, mais surtout aussi des souffrances du résidu fidèle. Donc les Juifs qui vivront après l'enlèvement de l'Église. Mais ce soir, on est dans la deuxième, ou si vous voulez, la troisième division d'Ésaïe. Et vous voyez, c'est vraiment remarquable de voir comment l'Esprit a divisé ces chapitres, ces 27 chapitres. 3 fois 9. Et 9, on peut diviser 3 fois 3. Donc on pourrait dire, c'est 3 fois 3 fois 3. Et ces divisions, ces trois divisions, la première division nous parle de la grande question de l'idolâtrie. À cause de leur idolâtrie, Dieu avait envoyé le roi de la Syrie, mais plus tard, le roi de Babylone, il était en captivité, soit par l'Assyrien, soit par le roi babylonien. Et cette grande question est présentée dans ce chapitre 40 à 48, la question de l'idolâtrie. Et on pourrait dire, mais le peuple a écouté plus tard, après la captivité, ils ont écouté Dieu, ils ont suivi la parole de Dieu. Non, dans Matthieu 12, on voit que même avec cette maison vide, il n'y a plus d'idole. Ce système judaïque est devenu un système idolâtre et va accepter plus tard l'Antichrist. La deuxième grande section, donc, dans Ésaïe, c'est 49 à 57 qui nous parle du rejet du Messie. Israël n'a pas seulement accepter les idoles. Dieu avait appelé Abraham pour qu'il sorte de l'idolâtrie, pour qu'il soit un témoignage pour Dieu dans ce monde, contre toute cette idolâtrie. Et puis Abraham était fidèle. Mais ses descendants sont devenus idolâtres de nouveau. C'est la première grande question. La deuxième question, ou le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur Messie? C'était le Messie selon les promesses de Dieu, que Dieu avait envoyé. Le Seigneur Jésus est venu, mais ils l'ont rejeté. Et ça, c'est la deuxième question. Et puis la troisième section de Ésaïe, la deuxième partie donc, c'est en même temps la septième section, nous parle du futur, soit du jugement, le Seigneur Jésus, le Rédempteur, sera le juge, mais aussi du futur glorieux pour Israël, la restauration finale. Voilà le prophète, vous voyez. le prophète introduit Christ moralement, mais aussi dans le futur, littéralement. Il parle de sa gloire future. Il parle de la gloire d'Israël, parce qu'Israël sera restauré et sera ensemble avec le Seigneur Jésus. Ce sont les grands sujets d'Ésaïe. Mais donc, au milieu de cette deuxième section, donc si vous voulez, chapitre 40 jusqu'à 66, au plein milieu, il y a cette section qui nous parle du Messie, chapitre 49 à 57. Et au milieu de cette série-là, il y a certains chapitres, 52 à 54, et de cette section du milieu, pour ainsi dire, le cœur, c'est la prophétie que nous avons devant nous. Donc c'est une place spéciale que l'Esprit de Dieu a donnée à cette prophétie dans l'Ancien Testament. Je donne une image pour comprendre ceci. Imaginons qu'un jeune homme va se marier avec une jeune fille, et puis il aime lui donner une belle bague avec un diamant. Voilà, on peut dire ce diamant est très précieux. Mais vous voyez, il va chercher une bague très spéciale, puis il va mettre ce diamant sur cette bague. Est-ce qu'il donnera ça simplement comme ça? Non. Il va chercher velours spécial pour que le diamant brille sur cette bague. Est-ce que c'est tout? Non. Il va chercher une boîte spéciale et ainsi, il va offrir ce cadeau d'une façon spéciale. C'est juste une simple illustration de la façon dans laquelle l'Esprit présente les choses. Il prend tous les moyens pour faire ressortir la grandeur et la beauté du Seigneur Jésus. Et ainsi, l'Esprit de Dieu place donc cette prophétie au centre d'autres prophéties merveilleuses, comme chapitre 49. On n'a pas le temps de parler de ça, mais si vous voulez lire ça à la maison, c'est vraiment impressionnant de lire chapitre 49. Au chapitre 50, je vais référer à ces passages quand même quelquefois. Un autre point à remarquer pour montrer l'importance de cette prophétie est citée littéralement au moins 8 fois dans le Nouveau Testament. Aucune prophétie est citée aussi souvent. Et puis il y a au moins 20 références dans le Nouveau Testament à cette prophétie. Au moins, probablement plusieurs, mais au moins 20 références. Donc, des citations littérales de cette prophétie. D'une part, dans Matthieu 8, dans Marc 15, dans Luc 22, dans Jean 12, dans Acte 8. Ce sont les 5 livres, les premiers livres du Nouveau Testament. Dans Romains 10 et dans Romains 15. Et aussi plus tard par Pierre, dans 1 Pierre 2. Donc, 8 passages dans le Nouveau Testament, ce serait intéressant de vérifier à la maison, où on trouve une portion de cette prophétie. Ça nous montre donc l'importance de cette prophétie. Autrement, cette prophétie ne serait pas tellement citée dans le Nouveau Testament. Donc, on voit avec cela une deuxième preuve pour l'importance de cette prophétie. Mais il y a encore un autre point, peut-être encore plus important. C'est la façon dans laquelle la gloire ou les gloires du Seigneur Jésus sont présentées dans cette prophétie. Vous connaissez le principe, en anglais on dit cluster, c'est donc un amas d'étoiles. Vous connaissez ce principe-là, on voit comme, comme la voie lactée que nous connaissons, ou d'autres systèmes d'étoiles, où les étoiles sont gardées ensemble. Moi j'aimerais comparer cette prophétie avec un tel système d'étoiles. Chaque détail dans cette prophétie nous parle d'une façon ou d'une autre du Seigneur Jésus. Et ainsi, le Seigneur Jésus et son œuvre brillent comme plusieurs étoiles, comme beaucoup d'étoiles, mises ensemble ici dans un tableau merveilleux. Il donne donc la façon dans laquelle le Seigneur Jésus, le Messie, est présenté est vraiment très touchant. On pourrait, comme j'ai dit au début, diviser cette prophétie dans 5 portions. Est-ce que vous connaissez d'autres sections dans la parole de Dieu où on a une division de 5, le Pentateuque, hein, le livre de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et ainsi on pourrait dire, Ésaïe 52, versets 12 à 15, nous parle de cette première division, c'est la Genèse de cette prophétie. C'est le début. Et le début, vous voyez, donne en principe tout déjà, tout. Le noyau est là. Tout ce qui est vraiment développé plus tard est déjà là. Comment est-ce que je peux savoir ça? C'est bien simple. Cette prophétie nous parle de la gloire du Seigneur Jésus, mais aussi de ses souffrances. Peut-être je devrais dire, cette prophétie parle de ses souffrances et ainsi de sa gloire. Ça, c'est l'ordre moral dans les pensées de Dieu. D'abord les souffrances et puis les gloires. Donc, on a ici cet ordre devant nous dans Isaïe 52, qui est donc cette portion là, que j'appelle la genèse de cette prophétie. Le début où on a en même temps le noyau, tout déjà. Un autre point à remarquer, comme j'ai dit, 5 sections, mais chaque section a 3 versets. Et ici, on a Dieu. On sait Dieu, la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Isaïe, on a beaucoup de sections où le nombre 3 est caractéristique, mais aussi le nombre 5. Ce sont 5 sections, comme je dis. 5 nous parle de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, dans cette section-là? On a Dieu et l'homme. On a d'abord Dieu et le parfait homme dans une même personne, le Seigneur Jésus. Mais on a aussi Dieu avec les hommes. C'est ça qu'on va voir dans cette prophétie-là. Dieu avec les hommes. Ainsi, on peut penser à un nom spécial que Dieu a dans ce livre, Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai oublié à mentionner le nom de ce prophète. Le nom, c'est Isaïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Isaïe veut dire le salut de l'Éternel, ou de Jéhovah, ou de Javé. Et ainsi, il nous parle donc du salut. Et ce salut, comme on voit dans ce chapitre, surtout à la fin du chapitre 53, ce salut a été réalisé par un homme. Dieu avec les hommes. Peut-être on peut commencer maintenant simplement à regarder un peu dans ce texte que nous avons lu. Et j'aimerais mentionner ici que cette prophétie est la dernière prophétie sur ce sujet du serviteur souffrant. On a 4 prophéties. Je les mentionne simplement. La première prophétie, c'est dans Isaïe 42, les premiers versets, le début. Là, on voit que le Seigneur Jésus est mon serviteur, donc le serviteur de Dieu, plus grand que Cyrus. Cyrus, ou le roi Cyrus, était mentionné aussi comme le serviteur de Dieu, loin de Dieu, et d'autres, l'élu de Dieu. Mais dans Isaïe 42, on voit que ce serviteur de Dieu est plus grand que Cyrus, mais il est le serviteur souffrant. On le voit dans Matthieu 12. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus est rejeté par son peuple, on va voir ça la prochaine fois, si le Seigneur nous laisse encore ici, dans Isaïe 53, le premier verset. Lorsque le Seigneur Jésus, le Messie, était rejeté par son peuple terrestre, Matthieu 11, Matthieu 12, l'Esprit nous donne cette prophétie de Isaïe 42. Il parle de toute la beauté du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui était plus grand que Salomon, le vrai roi, plus grand que le prophète Jonas, plus grand que le temple, lui est présenté là comme mon serviteur, mon bien-aimé. La deuxième prophétie, on trouve dans Isaïe 43. Et là, nous voyons qu'il est plus grand qu'Israël. Israël était le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel. Mais Israël a manqué. Israël a suivi les idoles. Et Israël a rejeté son Messie. Et on voit là que le Seigneur Jésus prend la place d'Israël. C'est une pensée bien connue, on le voit dans Osée. J'ai appelé mon fils de l'Égypte. Le Seigneur Jésus est devenu le fils. Israël était le fils. Exode. Le Seigneur Jésus est devenu le fils. Donc, dans Isaïe 49, on voit le Seigneur Jésus a pris la place d'Israël. Verset 3 et plus tard. Plus tard, Dieu voulant, on va revenir aussi à cette prophétie-là, en rapport avec Isaïe 50. Mais dans le chapitre 50, on a la troisième prophétie du serviteur de l'Éternel. Dans verset 10, nous lisons dans Isaïe 50, verset 10, « Qui d'entre vous craint l'Éternel, qui entend la voix de son serviteur ?» C'est le serviteur de l'Éternel, le serviteur de Jéhovah. Et dans la première partie de ce chapitre, on voit ses souffrances. On voit comment il est plus grand que le meilleur disciple. Le Seigneur Jésus, dans ce chapitre-là, est présenté comme le disciple parfait. Excellence, le disciple par excellence, le meilleur disciple. On le voit comme homme parfait, obéissant, dépendant de Dieu, mais on le voit aussi comme souffrant de la part de l'homme. On voit, verset 5, je le mentionne, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, moi je n'ai pas été rebelle. Voilà sa relation avec Dieu, comment il était prêt pour faire toute la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Verset 6. J'ai donné mon dos à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient le poil. Je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. Voilà, c'est ce que l'homme a fait avec lui. Et puis il dit, le Seigneur l'Éternel m'aidera. C'est pourquoi je ne serai pas confondu. C'est pourquoi j'ai dressé ma face comme un caillou. On va voir ce soir dans cette prophétie dans Ésaïe 52 aussi de sa face. Comment sa face était formée et préfigurée, changée. Mais ici, sa face est devenue comme un caillou. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Mais il a souffert de la part de l'homme. Mais vous voyez, la quatrième prophétie va encore beaucoup plus loin. Parce que cette quatrième prophétie ne parle pas seulement de cet homme parfait, qui était Dieu en même temps, Jéhovah lui-même, l'Éternel lui-même. Ne parle pas seulement de son humiliation et de ce, comment l'homme l'a attaqué et l'a frappé. Cette prophétie nous parle de ce que Dieu a fait avec lui. Comment Dieu l'a frappé. Quelle chose horrible pour un homme tellement parfait, pour un homme obéissant et dépendant de Dieu, comme lui l'était. Donc, on peut comprendre que cette prophétie est vraiment l'apogée. Dans cette prophétie, on a les souffrances qui sont venues sur lui de la part de Dieu, comme on a la même pensée dans le psaume 22. Donc, les prochaines fois, Dieu voulant, on va voir les détails de ça. Mais dans la première partie de cette prophétie, on a donc le noyau. Tout ce qui est développé plus tard dans les autres sections, la section Exode, je veux dire, versets 1 à 3, qui nous parle donc du fait qu'il était rejeté de son peuple. La section qui suit, qui nous parle de son sacrifice, de la section Lévitique. L'autre section qu'on va voir plus tard, qui est parallèle avec Nombre, et la dernière section qui est la conclusion, qui parle des résultats de cette œuvre-là. Tout cela est déjà un noyau, un germe, pour ainsi dire, dans l'origine, au début de cette prophétie. Voilà, le prophète demande notre attention. Comment? Il y a sept points dans le verset 12, maintenant, de Ésaïe 52. Le premier point, c'est « Voici ». Il fait un appel. Il nous appelle, pour ainsi dire. Il demande notre attention. C'est aussi simple que ça. Est-ce que notre attention est dirigée vers le Seigneur Jésus? Est-ce que notre oreille est ouverte pour écouter cette voix, pour répondre à cette voix? Ça, c'est le premier. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est l'Éternel dit ici « mon serviteur ». Il ne dit pas « le serviteur ». Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire que c'était « le serviteur ». C'est vrai. C'est « le serviteur » par éminence, par excellence. Mais vous voyez, Dieu a un plaisir spécial pour s'identifier avec ce serviteur. Il dit, c'est mon serviteur. Lorsque Dieu a oint David, dans 1 Samuel 16, il dit à Samuel, va maintenant pour oindre pour moi-même. C'est ça, on pourrait traduire comme ça. Pour moi-même, un des fils d'Isaïe, comme roi. Pour moi-même. Dieu a trouvé un serviteur pour lui-même. Il lui dit, c'est mon serviteur. Ça nous parle aussi de l'affection que Dieu a pour ce serviteur. Et c'est mutuel, vous voyez, parce que le mot serviteur, c'est le troisième point, veut dire esclave. On pourrait traduire esclave. C'est quelqu'un qui sert, qui a soumis toute sa volonté. Et ainsi, on a vu dans Ésaïe 50, la troisième prophétie du serviteur souffrant, il a donné tout à Dieu. Il a soumis toute sa volonté à Dieu. Il était obéissant. Et ainsi, il l'a fait par amour. Exode 21, on connaît ce passage-là. On pourrait parler du psaume 40, juste brièvement. Dans le psaume 40, on voit que ce serviteur, l'oreille était formée. C'est la formation qu'on voit là. Dans Ésaïe 50, on a l'oreille ouverte. C'est sa marche ici-bas. Comment il était obéissant dans ces 3 ans et demi de son ministère. Et dans Exode 21, on a l'oreille ouverte par rapport avec ses souffrances jusqu'à la mort. Et puis, on voit que c'est là, par amour. Psaume 40, c'est vraiment par amour qu'il est venu pour dire, je suis venu pour faire ta volonté. C'est donc l'amour qu'on voit ici dans le serviteur. Et ainsi, c'est réciproque. Dieu l'aime et lui, il aime Dieu. C'est mon serviteur. Quelle joie pour le cœur de Dieu d'avoir un tel serviteur. Vous voyez, Dieu avait essayé, pour ainsi dire, je le dis humainement, Dieu avait essayé Adam. Il avait donné tout à Adam. Adam était le roi de toute la terre, mais Adam a manqué. Il était un serviteur infidèle. Ainsi, on pourrait parler aussi d'Israël. Israël avait une place spéciale pour Dieu, des privilèges merveilleux pour Dieu. Mais Israël est devenu un serviteur infidèle. Et puis là, le Seigneur vient. Le Seigneur Jésus vient, il est le parfait serviteur. Il prend la place d'Adam, où il a manqué, mais lui, il ne manque pas. Il prend la place d'Israël, il est le parfait serviteur, il ne manque pas. Il a été honoré par ce serviteur. Comme j'ai dit, tous les hommes ont manqué. Dieu a essayé d'autres hommes. On peut parler des prophètes, des rois d'Israël, des sacrificateurs. Tous ont manqué. On peut parler des rois des nations comme Nebuchadnezzar, Cyrus, j'ai mentionné au début. Tous ces hommes-là, qui sont d'une façon ou d'une autre une image du Seigneur Jésus, ont manqué. Mais le Seigneur Jésus était le vrai, qui n'a pas manqué. Mais vous voyez, pour faire la volonté de Dieu, il fallait qu'il souffre. Et c'est ça le secret qu'on a dans ce passage-là. Mais on va revenir à ça dans verset 14. D'abord, encore quelques points. « Mon serviteur agira sagement. » C'est le quatrième point. Dieu dit ici, « Il agira sagement, avec sagesse. » Maintenant, je vais revenir à un point que j'aurais aimé mentionner au début. Ésaïe est aussi lui-même une image du Seigneur Jésus. Ésaïe était le vrai disciple et une image du Seigneur Jésus. On le trouve au début des idées. Mais aussi une image du reste fidèle. Et le reste fidèle, on trouve par exemple dans Daniel, sont donc les Juifs futurs qui, après l'enlèvement de l'Église, qui seront sages. Une des caractéristiques de ces masculines, qui sont appelés les sages, c'est qu'ils sont sages. C'est qu'ils agiront avec sagesse. Et ainsi, ils prospéreront. Ils auront du succès. Ils sont appelés aussi des saints. Et ainsi, le Seigneur Jésus, pour ainsi dire, était le vrai serviteur qui représente aussi résidus futurs. OK, pour ceux qui veulent poser des questions là-dessus plus tard, parce que c'est peut-être un peu trop compliqué pour développer ça maintenant. En tout cas, ce point qu'on a ici, il agira sagement. C'est une caractéristique du résidu fidèle, mais c'est une caractéristique qu'on a aussi dans Josué. Josué, qui a introduit le peuple de Dieu dans le pays promis, il est dit, devrait agir sagement. Et ainsi, il aurait, comme on pourrait traduire, il aurait du succès. Vous voyez, tout au début de cette prophétie qui nous parle des souffrances du Seigneur Jésus, des souffrances incompréhensibles, Dieu parle de ses qualités merveilleuses. Une de ses qualités était donc comment il a agi avec sagesse. Mais comme j'ai dit, on pourrait traduire, il prospérera ou il aura du succès. Donc, tout au début, Dieu dit déjà, il va avoir du succès. C'est important. Les enfants, lorsqu'ils vont lire des histoires, des livres intéressants sur des héros, ils aiment voir comment l'histoire va se terminer. Quelquefois, l'héros est dans de grandes difficultés et même en danger perdre sa vie. Et ainsi, on aime voir juste à la fin du livre comme s'il vit encore à la fin. Vous voyez? C'est ainsi, Dieu dit, tout au début, il dit, vous voyez, mon héros, il va souffrir. Et comme les gens dans ce monde pensent, il était simplement un martyr, vous voyez. Il y a même, le Seigneur Jésus est très populaire parmi les gens du monde dans ce sens-là. Il y a même Jesus Christ Superstar, c'est quelque chose que le monde a créé. Des athées, des hommes rebelles ont composé ça sous l'instruction du diable, bien sûr. Mais il présente le Seigneur Jésus comme un martyr, et ainsi, il a fait son bien, mais il a manqué. Non, c'est pas comme ça que Dieu présente son serviteur. Il dit tout au début, il n'est pas un martyr qui a manqué, ou qui a fait son mieux, et puis tout est tombé dans l'eau. Non, Dieu dit tout au début, il agira sagement, il va avoir du succès. C'est très encourageant, parce que vous voyez, ses souffrances sont présentées plus tard, et on se demande, mais qui va se passer? Lorsqu'un enfant écoute pour la première fois l'histoire des souffrances du Seigneur Jésus, souvent les enfants pleurent à cause de ces souffrances du Seigneur Jésus. Les enfants connaissent le Seigneur Jésus comme le bon berger. Et puis à un moment donné, ils vont écouter cette histoire que ce bon berger a dû souffrir, a été crucifié. Ils vont pleurer parce qu'ils ne savent pas la fin de l'histoire. Ils ne savent pas que le Seigneur Jésus a été ressuscité. C'est pour ça que Dieu parle déjà au début de ce résultat. Et vous voyez, ce résultat, on va voir seulement à la fin, dans chapitre 53, versets 11 et 12, on va le plein résultat. On va voir le plein résultat de son œuvre. Mais Dieu le mentionne déjà ici, tout au début. Et qu'est-ce que Dieu ajoute là? Parce qu'on pourrait dire aussi, il agira sagement, j'aimerais appliquer ça aussi à sa vie. Aussi, sa vie était un succès. Chapitre 49 nous parle du Seigneur Jésus, et tout était en vain. Vous pouvez lire cette prophétie. Et même le Seigneur Jésus fait des complaintes, pour ainsi dire, humainement parlant. Matthieu 11, il a remis tout entre les mains de Dieu. Mais malgré cette apparence que tout était en vain, Dieu dit, il a agi avec sagesse. Même si tout semblait manquer, il avait agi avec sagesse. Ça, c'est un point très important. Et pour nous aussi à suivre, parce qu'il y a toujours des leçons pratiques pour nous aussi. Dieu aime voir un résidu maintenant, comme Daniel et ses amis qui ont agi avec sagesse, comme Josué a agi avec sagesse. Dieu aime voir un résidu qui agit avec sagesse. Et plus tard, vous voyez, dans Jérémie 23, vous pouvez le voir, le Seigneur Jésus est mentionné comme étant la branche, et la même expression est utilisée, au moins dans l'hébreu, où Dieu dit « il prospérera ». Donc, ça nous parle de sa gloire future. Donc, j'aimerais l'appliquer à sa vie. Il a marché dans la sagesse. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, marcher ou agir avec sagesse? Dans la crainte de l'Éternel. Ça, c'est le secret. La crainte de l'Éternel, c'est la base de la sagesse. C'est le secret de la sagesse. Ainsi, on voit donc comment le Seigneur Jésus a marché dans sa vie. Et le résultat, il sera exalté. On a trois points encore, 5, 6 et 7. Exalté, élevé et placé très haut. On a ici donc au moins trois dimensions dans son exaltation. Il sera exalté, on peut penser à sa résurrection. Le psaume 21, on voit le même mot dans le psaume 21 à la fin, verset 13. Il sera exalté, le roi sera exalté. Ainsi, on voit dans le psaume 21, avant les souffrances du psaume 22 déjà, la résurrection du roi, il sera exalté. Dieu a dit aussi dans Jean 13 que le Seigneur Jésus l'a glorifié, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, que le Fils de l'homme a glorifié Dieu, et ainsi Dieu le glorifie. Vous voyez, c'est la réponse de la part de Dieu. Ce serviteur a agi avec sagesse, a honoré Dieu dans chaque mot de sa bouche, chaque action de ses mains, chaque mouvement de ses pieds, il a honoré Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Moi, je l'honore. Il sera exalté. J'aimerais comparer ceci avec la résurrection du Seigneur Jésus. C'était vraiment pour l'honorer que Dieu l'a ressuscité. Vous voyez, chaque point qu'on a ici, on pourrait avoir toute une étude pour une soirée. Chaque point, la résurrection comme telle, serait un sujet magnifique à étudier. Mais on voit ici que Dieu l'a exalté. Deuxièmement, élevé. On peut penser à l'ascension dans Acte 1. Et d'autres passages, on voit comment le Seigneur Jésus est monté. D'un côté, il est monté, et de l'autre côté, comme homme dépendant, Dieu l'a reçu. Dieu l'a, pour ainsi dire, enlevé de la terre. Et ainsi, il l'a élevé. Le troisième point dans ce mouvement est, il l'a placé très haut. On pourrait dire, Dieu lui a donné cette place à côté de la droite, dans la majesté, dans les lieux très haut. Dans l'Épître aux Hébreux, on a une expression très intéressante. Là, il est dit que le Seigneur Jésus est monté même au-dessus des cieux. Ça nous montre donc la grandeur de la personne qui pouvait monter au-dessus des cieux parce qu'il est plus grand que les cieux, parce qu'il est Dieu lui-même. D'un côté homme, de l'autre côté Dieu. Et Dieu a donc exalté, il l'a élevé et placé très haut, même au-dessus des cieux. Et aussi, comme on le voit dans Hébreu et d'autres passages, à côté de sa droite. C'est donc cette exaltation. C'est tout. Philippiens 2, vous voyez, Philippiens 2 nous parle de cette phase de son exaltation. Comment Dieu l'a glorifié. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Voilà, le secret nous est révélé dans verset 14. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant. C'est remarquable, ou littéralement, de toi. Dieu s'adresse ici directement au Seigneur Jésus. Il parle dans la personne, dans la troisième personne souvent, il parle de mon serviteur, de lui, de ce qu'il a fait, mais ici, il se réfère à lui personnellement, de toi. C'est très bon de voir ça. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, et là, il y a une parenthèse maintenant. Cette parenthèse nous explique comment et pourquoi les gens étaient stupéfaits. Puis après cette parenthèse, on va voir de nouveau des détails de sa gloire, de son exaltation. Mais l'ordre que j'aimerais maintenant souligner, c'est d'abord les souffrances, puis la gloire. Ça, c'est un ordre moral qu'on a ici. C'est la même chose, vous pouvez le lire à la maison, c'est un verset dans Genèse 35. C'est très touchant vraiment de voir ça. Lorsque Benjamin est né, Benjamin, sa mère dit, fils de mes douleurs, Ben-Oni. Ainsi, on pourrait dire, le Seigneur Jésus est présenté ici comme le vrai fils de douleur. On va le voir, cette expression-là, l'homme de douleur, plus tard, hein, Ésaïe 53, verset 3. Ainsi, Ben-Oni était vraiment le fils de douleur, des douleurs de sa mère. On peut penser à Israël, tout ça, je ne peux pas parler de ça maintenant. Et puis, le père lui donne ce nom, Benjamin, veut dire fils de ma droite. Voilà, ça c'est un peu le sujet dans cette prophétie. Les souffrances, les douleurs, et puis la gloire. Psaume 22, ça nous parle des souffrances du Seigneur Jésus, de ce serviteur. Et le psaume 110 nous parle d'un homme qui est à côté de Dieu, à la droite de Dieu, le vrai Benjamin. Vous voyez, le vrai Benoni, le vrai Benjamin. Et aussi dans le Nouveau Testament, Luc 24, le Seigneur Jésus lui explique ceci aux disciples. Il dit aux disciples d'Emmaüs qu'il fallait, donc c'est vraiment une nécessité morale selon les pensées de Dieu. Il fallait que le Christ souffre et ainsi qu'il entre dans sa gloire. Vous voyez, c'est l'ordre de Dieu. D'abord les souffrances, puis la gloire. Et aussi pour nous, Romains 8 l'explique dans le verset 18, je pense, 17, 18, comment ce même principe est valable maintenant pour nous. D'abord les souffrances, puis la gloire. Et au début, on a parlé des prophéties. Dans 1 Pierre 1, on a le même principe. Les prophètes ont parlé des souffrances et puis des gloires plurielles à suivre après. La même chose on a ici. Les souffrances du Seigneur Jésus, de la part de l'homme, de la part de Dieu, des aspects différents. Et les gloires, comme on a vu, ces trois points, les gloires exaltées, élevées et placées très haut. Les gloires du Seigneur Jésus. La parenthèse, donc, nous parle comment grandes étaient ses souffrances. Et vous voyez, pour noter ici, tellement son visage était défait. Dans chapitre 53, on va voir l'expression « il n'y a point d'apparence en lui ». C'est le même mot. Visage ou apparence, c'est le même mot dans l'hébreu. Et ainsi, on voit donc ce qui était donc visible pour les hommes, son visage, son apparence, était défait. Maintenant, quand est-ce que cela était le cas? Parce qu'il y a des commentateurs qui disent, mais c'était donc lorsqu'il était fouetté par Pilate. On peut comprendre que ainsi son visage aussi était défait. Son dos, Ésaïe 50, on a vu son dos, ici son visage. Mais vous voyez, dans le contexte de cette prophétie, c'est plutôt à cause de ce fardeau que Dieu a mis sur lui. Que le Seigneur Jésus, l'homme pur et sans tache, est devenu péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Quelle chose horrible pour lui. Et ainsi, on peut comprendre qu'à cause de ça, son visage était défait. On le voit déjà dans le jardin de Gethsémani. Moi, je ne voulais pas dire que c'est uniquement là le cas, parce que Dieu a mis un voile là sur ses souffrances. Mais même lorsque les gens ont vu le Seigneur Jésus, dans Jean 8, ils disent, tu as vu Abraham, tu n'as pas encore 50 ans. Mais le Seigneur Jésus avait 33 ans là. Mais les gens lui donnaient déjà 50 ans. Ça veut dire, voyant son visage, ils pensaient qu'il avait déjà 50 ans. Ça nous montre donc que le Seigneur Jésus, son visage était, c'était visible qu'il avait souffert beaucoup, déjà dans ce temps-là. Mais quoi qu'il en soit, à cause de ses souffrances, son visage était défait. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent du visage du Seigneur Jésus. Ce serait très bon d'étudier ces passages. Par son visage, ou dans son visage, on voit la gloire de Dieu. C'est présentement le cas. 2 Corinthiens 3 et 4, vous pourriez lire à la maison. Mais dans son visage, ceux qui étaient ici-bas ont vu aussi la gloire de Dieu. La gloire du Fils unique d'un père. Jean 1, verset 14, Jean 1, verset 18. Ainsi, il a révélé, manifesté le Père. Mais ici, qu'on voit que son visage était défait. On pourrait lire des passages sur le visage du Seigneur Jésus dans le futur, comme le juge dans Apocalypse 1, comme Jean l'a vu, mais ici c'est un rapport avec ses souffrances. Quelle chose horrible! Et on va voir plus tard que c'était aussi à cause du fait que Dieu a mis tout ce fardeau de nos péchés sur lui, que Dieu l'a fait pécher. Ainsi, son visage était défiguré. Vous voyez, dans le chapitre 50, on a cette expression, verset 6, « J'ai donné mon dos à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient le poil. Je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. » Donc, on peut suggérer aussi que cette défiguration, c'est ce fait que son visage était défait, c'est à cause de ce que l'homme a fait. C'est bien sûr fouetté et aussi craché, frappé par les hommes. Ésaïe 50 et d'autres passages, mais aussi dans le contexte de cette prophétie, par tout ce poids que Dieu a mis sur lui, sur sa tête bénie. Et aussi sa forme. On va voir le même mot plus tard aussi dans Ésaïe 53, deux fois même, sa forme. Aussi Philippiens 2 nous parle de sa forme. Tout était défait à cause de cette pression. On ne peut pas vraiment s'imaginer ce que cela était pour que pour un péché, le Seigneur Jésus, si nous avons fait seulement un péché dans notre vie, pour ce seul péché, le Seigneur Jésus a dû subir le jugement de Dieu. Quelle chose horrible pour lui. Mais on a fait des milliards de péchés, billions de péchés. Tous ces péchés ont été confessés par le Seigneur Jésus, mais pas seulement cela. Il a porté tout le poids de ses péchés. Et il s'est identifié avec notre état pécheur. Quelle chose horrible. C'est pour ça qu'on peut comprendre que son visage était défait. Et aussi sa forme défaite, plus que celle d'aucun fils d'homme. C'est donc la parenthèse qui nous explique pourquoi beaucoup étaient stupéfaits. On peut le comprendre, même, vous voyez, un homme, un centurion, là, les Romains étaient des hommes durs, au moins les soldats étaient très durs. Cet homme était ému en voyant le Seigneur Jésus. Il a dit, voilà, c'est vraiment le Fils de Dieu qui était juste. Il était stupéfait. Les multitudes ont frappé la poitrine à cause de tout ce qu'ils ont vu. On peut le lire dans les évangiles. Il était stupéfait. Mais maintenant, vous voyez, et on va finir avec ce verset 15 maintenant, on voit un lien entre cet aspect de ses souffrances et l'impression que cela a donné à ces gens-là, qu'il était stupéfait. Ainsi, Dieu dit, pour ainsi dire, ils seront impressionnés par la grandeur de mon serviteur. Il était stupéfait à cause de ses souffrances. Maintenant, ils tressailleront d'étonnement. Verset 15. Ainsi, il fera. Ça, c'est beau. C'est la même personne qui va faire que ces nations tressailleront d'étonnement. Pour comprendre, imaginons qu'on connaît quelqu'un, et puis cette personne est morte, et puis, à un moment donné, on rencontre cette personne. On serait stupéfait. On serait tout à fait étonné. C'est ça qui est arrivé avec Saul de Tarse. À un moment donné, il était en route pour aller à Damas, pour attaquer les croyants. Et tout d'un coup, le Seigneur Jésus lui est apparu. De la gloire. Il pensait que le Seigneur Jésus était mort dans le tombeau. C'est ça que les Juifs pensaient. Maintenant, il le rencontre sur le chemin. Quel étonnement. Et puis ainsi, Saul est tombé par terre. C'est le même étonnement avec lequel les nations vont voir le Seigneur Jésus. Ils pensent qu'il est mort. Les Juifs pensent qu'il est mort, encore aujourd'hui. Puis, ainsi, ils le verront, ils tressailleront d'étonnement. C'est un mot qui est quelquefois traduit par asperger, faire aspersion, mais probablement c'est la vraie traduction qui est correcte. Ils tressailleront d'étonnement. On le voit dans Daniel 7, par exemple. Là, le Fils de l'homme vient, juste un Fils de l'homme. Mais quel pouvoir! Il va régner sur toutes les nations. Quel étonnement pour les gens de voir un tel homme, ce serviteur de l'Éternel, qui va régner. Ils seront stupéfaits. Beaucoup de nations. Et vous pourriez lire psaume 2. On voit cet étonnement. Le psaume 8 qui nous parle encore des régions plus loin, hors, en dehors d'Israël. Le psaume 22 qui nous parle des souffrances du Seigneur Jésus parle aussi des effets de son œuvre jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations sont l'a impliqué pour jouir de ses bénédictions. Mais ici, c'est plutôt cet élément d'étonnement. Des rois fermeront leur bouche. Devant une telle personne, ils ne peuvent rien dire. Ce sera le cas aussi devant le Le trône blanc, le trône grand et blanc dans Apocalypse 20, on voit que là, toute bouche sera fermée. Mais surtout, je pense aussi au début du millénium, ces rois de la terre qui ont attaqué le Seigneur Jésus, même on peut penser aux rois qui tomberont dans cette guerre, Apocalypse 19, le Seigneur Jésus sortira des cieux, il va attaquer ces rois, et le chef de l'Empire romain et la bête, le roi d'Israël, seront jetés dans le lac de feu tout de suite. Mais tout cela aura un effet aux rois de la terre. Les rois fermeront leur bouche. Tous ces rois, avec toutes leurs prétentions, tout leur orgueil, fermeront leur bouche. Et c'est déjà moralement le cas aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vraiment est impressionné par la beauté du Seigneur Jésus, sa sagesse, 1 Corinthiens 1 nous parle de la sagesse du Seigneur Jésus, on a parlé de sa sagesse, mais 1 Corinthiens 1 nous parle aussi de sa puissance. Il a la puissance de Dieu. Voilà, ces deux éléments, sa sagesse devant sa puissance, les rois de la terre fermeront leur bouche en le voyant. Mais aujourd'hui, c'est notre privilège, fermer notre bouche pour ainsi dire. Romains 3 nous parle de ce fait que chaque bouche se ferme devant un tel roi, une telle personne, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. On va finir avec cette pensée-là. Littéralement, ce sera le cas dans le millénium, comme on voit dans ce contexte-là, où ces rois seront soumis à l'autorité du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce passage s'applique à vous et moi. C'est très beau de voir ça. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Paul l'applique cela, l'apôtre Paul applique ceci dans Romains 15, verset 21, à nous, aux nations. Les nations qui n'avaient pas vu ça, qui ne connaissaient rien de ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Thomas aussi dans Jean 20, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et cru. Nous voyons maintenant par la foi. Vous voyez, c'est le principe de la foi. Et par la foi, Hébreux 11, nous voyons ces choses. Et ainsi, ce passage s'applique à vous et moi. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. C'est comme la reine de Sheba. Quelle exclamation elle a faite devant Salomon. La moitié n'a pas été communiquée, elle a dit. Mais nous avons déjà tout. Dieu nous a communiqué tout. Tout cela nous a été raconté. Donc, c'est notre privilège de connaître déjà ce secret. Plus tard, d'autres rois, les nations dans le millénium vont reconnaître ça. Plus tard, Israël, comme on va le voir dans chapitre 53, le reste fidèle va le reconnaître. Mais c'est pour vous et moi déjà maintenant que cet homme inconnu dans le monde est pour nous la personne la plus merveilleuse. Et ainsi, on peut dire, cette prophétie nous parle de la personne la plus merveilleuse, et ainsi, c'est la plus grande prophétie de la Bible. Je le répète, c'est vraiment une prophétie merveilleuse. Donc, c'est la section initiale qu'on a eue maintenant, la genèse de la prophétie, et puis c'est à vous et à moi de méditer sur ces versets-là pour que nous puissions être impressionnés par les souffrances du Seigneur Jésus, par ses gloires, par sa beauté, même s'il était ici défait. En même temps, sa beauté morale a brillé, comme nous le chantons dans un cantique. Même là, à la croix, a brillé sa beauté, vous voyez. Et ainsi, cette beauté brille dans ce passage-là. Et ainsi, c'est un encouragement pour nous d'être occupés de lui pour être des adorateurs, mais aussi pour être des serviteurs. Je pense que le prophète place ceci devant nos cœurs afin que nous soyons aussi de vrais serviteurs. C'est toujours un appel à vous et moi pour suivre le Seigneur Jésus sur ce chemin de la foi, comme le reste fidèle le fera. C'est à vous et moi maintenant d'être de vrais serviteurs, de vrais fils qui servent par amour. Et ainsi Dieu sera satisfait aussi de vous et moi. Et Dieu nous donnera une place à côté du Seigneur Jésus. Ça c'est le secret, vous voyez, que l'Église aujourd'hui a déjà cette place. Le Seigneur Jésus est exalté. Dieu nous a donné cette place, ensemble avec le Seigneur Jésus. Mais on est en même temps encore sur cette terre. Et c'est pour ça que nous avons besoin aussi d'agir avec sagesse, dans la crainte de Dieu, d'être des vrais serviteurs pour plaire à Dieu. Et puis, le moment venu, Dieu va nous exalter. Selon le principe qu'on a dans le Nouveau Testament, celui qui s'humilie sera exalté. Dieu va l'exalter. Le même principe. Donc, que le Seigneur nous aide à réaliser ces choses et à méditer ces choses aussi pour voir davantage la beauté du Seigneur Jésus.